Radio Kapi.
Midi pile à Kinshasa, 13h à Goma, au Nord Kivu. Bienvenue, voici les titres de ce journal. La cité de Kichanga, de nouveau occupée par les rebelles du M23, après d'intenses combats toute la journée d'hier samedi avec les groupes armés locaux. Selon diverses sources dans cette région du Nord Kivu, ces nouveaux affrontements ont encore une fois été à la base des déplacements des dizaines de familles. Le gouvernement rassure l'opinion nationale notamment que toutes les dispositions sont prises pour assurer un approvisionnement régulier des produits pétroliers. L'annonce a été faite vendredi dernier au cours de la 116e réunion du Conseil des ministres tenue ici à Kinshasa. À l'occasion de la célébration le 20 octobre de la Journée de la paix, nous recevons comme invité Amissi Tété Joseph, le président national de la Société civile alternative, plaide pour l'organisation du dialogue social, pour la cohésion sociale, la stabilisation du processus démocratique et républicain. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'écoute de ce journal Nord Kivu. Pour commencer, la cité de Kichanga est de nouveau occupée par les rebelles du M23 depuis hier samedi après-midi. Ceci après d'intenses combats qui se sont déroulés en pleine cité entre les groupes armés locaux et les rebelles toute la journée. Selon diverses sources dans cette région, les combattants des groupes armés ont décroché. 2 civils ont été tués et 5 personnes ont été blessées, rapportent ces mêmes sources. Ces nouveaux affrontements ont encore une fois été à la base des déplacements des dizaines de familles. Des détails avec vous Jacques-Yves Molima.
Les armées se sont tuées autour de 16h30 locales après presque une journée d'affrontements hier entre le M23 et les groupes armés locaux. À l'heure actuelle, la cité de Kichanga est sous occupation totale du M23, affirme un habitant de Kichanga qui témoigne avoir passé la nuit dans sa maison. Plusieurs sources parlent d'une accalmie précaire. Les rebelles sont visibles dans et aux extrémités de la cité où ils contrôlent la situation qui toutefois reste imprévisible. Ils ont placé leur position le plus avancée à Ndondo, à 3 km au nord de Kichanga, à Kinyumba, à 5 km à l'ouest, et à Burungu, à 12 km au sud. La société civile territoriale de Masisi dit craindre des représailles de la part des rebelles envers les civils. Télésphore Mitondeke appelle le contingent de l'EIAC de s'interposer.
Des gens là dans la nuit, quelques maisons seraient incendiées dans certains quartiers par ces terroristes sous prétexte d'appartenir à certains collabos de Ouazalendo. Nous craignons parce que maintenant les populations restent exposées à des représailles.
Quelques habitants qui avaient fui vers la paroisse catholique, l'hôpital CBK et vers les bases de la MONUSCO et de l'EAC commençaient à regagner leur maison depuis ce matin. Cependant, la majorité qui a pris la direction de Mouesso reste concentrée dans cette agglomération où les conditions de vie laissent à désirer.
Sous un autre chapitre, les notables de la province de la Tchopo demandent au gouvernement congolais de s'impliquer pour mettre fin au conflit opposant les communautés Mbole et Lingola. Les 10 conflits se vivent depuis 7 mois dans la partie de Lubuya, Bera, et résultent selon ces notables de la vente d'une centaine d'hectares de terre par la gouverneure de province de la Tchopo et la société agropastorale du Congo pour une occupation de 5 ans. Ce conflit a occasionné des morts et des déplacés. Par peur de voir ce conflit toucher plusieurs communautés, Maître Faustin Batongo Libembe, notable de la Tchopo, demande à la gouverneure de province Nikomba de reconsidérer sa décision pour favoriser une cohabitation pacifique entre plusieurs communautés. Il explique au micro de Fulbert Balolagué.
Je me dis que le conflit a surgi du fait qu'il aurait une vente de centaines d'hectares de terre dans la partie de Lubuyabera Kisangani. Et l'une des ethnies s'est sentie lésée. Il s'est vu finalement que si cela continuait, il aura du mal à survivre. Raison pour laquelle il y a maintenant des échauffourées, il y a mort d'hommes entre les deux ethnies. Et à l'heure où nous parlons, il y a des centaines et des centaines de morts, il y a des milliers de déplacés. Et ce conflit continue au regard des autorités sans pour autant qu'ils ne prennent des mesures fortes et dures. Première des choses à faire est de reconsidérer ce contrat, qui du reste n'est qu'un contrat d'occupation provisoire de 5 ans, signé entre la gouverneure des provinces, Madame Nikomba, ainsi que la société agropastorale du Congo. La deuxième mesure à prendre est d'organiser un vrai dialogue entre tous ces ethnies-là qui ont toujours vécu dans la paix, pour que, d'un mot après-demain, qu'ils reprennent leur milieu de vie naturel. La troisième proposition est de faire en sorte que les vrais auteurs, les auteurs intellectuels, les auteurs moraux et bien d'autres auteurs matériels soient réellement sanctionnés.
Il faut signaler que Maître Faustin Batongo sollicite aussi une assistance humanitaire pour les déplacés de ce conflit. Restons dans la province de la Tchopo, où le gouvernement central vient de dépêcher une force spéciale de la police afin de mettre un terme aux tueries perpétrées par des assaillants dans la commune de Lubunga, dans ce conflit communautaire attribué aux Mbole et Lingola. Ceci a été révélé hier samedi au cours d'un point de presse animé conjointement par le ministre LPST et porte-parole du gouvernement provincial, Georges Lumalisa Monde, avec ses collègues en charge respectivement des affaires foncières, de l'intérieur et sécurité, ainsi que des affaires humanitaires. L'origine du conflit et ses conséquences ont été évoquées au cours de cette rencontre avec la presse. Le point avec Jacques Moukonkoli.
Les quatre ministres provinciaux ont tenu à lever l'équivoque au sujet du conflit Mbole-Lingola que d'aucuns attribuent à la gouverneure des provinces au motif d'avoir signé un contrat foncier en faveur d'une entreprise libanaise. Pour le ministre provincial des affaires foncières, Alexis Baouma, Madrene Nikomba n'y est pour rien.
À vous dire vrai, la superficie occupée par la société GAP est calme. Les gens y travaillent. Il y a des Mbole, des Lingola, des Topoké, des Lokele. Toutes les communautés sont là en train de travailler paisiblement. Alors, où est le conflit que nous essayons de parler de ces contrats-là de la société GAP? Parce que là, il n'y a pas de problème.
Afin de mettre un terme à ce conflit, le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité interpelle la population. Jean-Norbert Lokula Lolisambo l'exhorte à une vigilance tout azimut.
Quand vous trouvez des personnes étranges dans notre milieu, il faut d'abord poser cette question. Il est venu d'où? Qu'est-ce qu'il fait ici? Et il faut saisir les autorités en temps. Et il n'y a pas une armée qui a gagné la guerre sans les concours de sa population.
Par rapport à la force spéciale de la police venue de Kinshasa, le ministre provincial de l'Intérieur précise qu'elle sera déployée de façon permanente, notamment à Osio, Kubagu et Ngenengene. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Le bureau du PNUD, programme des Nations Unies pour le développement, antenne de Bounia dans la province de l'Ituri, a achevé vendredi dernier une formation de 20 médiateurs des conflits communautaires. Ces agents venus de 5 territoires de cette province auront pour mission de veiller à ce que les tensions politiques lors des élections de décembre prochain ne favorisent pas la résurgence d'autres conflits qui existent particulièrement dans des entités coutumières, ce qui souvent s'accompagne des tueries et incendies des villages ainsi que des pillages des biens de la population. Maître Gisèle Edoumou, l'une des participantes à cet atelier, évoque le cas du territoire d'Arou qui fait face à des conflits de plusieurs formes. Elle a été jointe par Jean-Claude Lokidile.
Surtout dans le territoire d'Arou, c'est très capital parce que ce qui se fait sur terrain, même avant les élections, il y a eu des incidents, il y a des conflits de pouvoir, des conflits de limites qui peuvent donner des incidents le jour des élections, même après, par rapport au résultat. À Arou, il y a des conflits de pouvoir, il y a les conflits de limites administratives, il y a les conflits fonciers aussi, bien sûr. Ce qui se passe dans la chasse de loups et effectivement dans le secteur de Ndo, avec la présence des groupes armés, Codeco, tout ça vers la zone minière là, nous craignons vraiment, il y a des incidents qui sont déjà là. Mais nous, de notre côté, comme nous avons suivi cette formation, lorsqu'il y a des alertes sur terrain, nous allons accompagner les parties au conflit. Enfin, l'objectif est de trouver un arrangement, une solution quant à.
Le gouvernement rassure l'opinion nationale notamment que toutes les dispositions sont prises pour assurer un approvisionnement régulier des produits pétroliers. Cette annonce a été faite vendredi dernier au cours de la 116e réunion du Conseil des ministres tenue à Kinshasa. On écoute un extrait du compte-rendu lu par le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, dans cet extrait proposé par Alain Irung.
Dans la suite de la communication du président de la République, le Premier ministre chef du gouvernement a axé sa communication principalement sur la discussion en cours avec les producteurs pétroliers. Il a ainsi informé le Conseil qu'il a présidé en date du 17 octobre 2023 une séance de travail avec le ministre des Finances, celui des hydrocarbures, les représentants du secteur bancaire ainsi que ceux des entreprises pétrolières au sujet de l'approvisionnement et de la distribution de produits pétroliers. Cette réunion a également permis d'examiner la question du financement du manque à gagner prévu par le gouvernement en faveur de pétroliers. Le gouvernement de la République rassure toutes les parties prenantes et plus largement l'opinion publique nationale que toutes les dispositions sont prises pour assurer un approvisionnement régulier des produits pétroliers. Dans la même perspective, cette démarche a été confortée par le président de la République, chef de l'État, qui a réuni les parties prenantes à cet effet le jeudi 19 octobre 2023. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie, se charge donc de la finalisation des discussions en cours avec ses partenaires de l'État.
Par contre, les pétroliers de Lubumbashi ont mis les clés sous les paillassons. Depuis deux jours, ils observent un mouvement de grève et déplorent le non-respect des engagements pris par le gouvernement le 30 septembre dernier à Lubumbashi. Cette situation crée la spéculation des prix chez les revendeurs et les prix de la course est passé du simple au double. D'autres précisions avec vous, Jean Gandou.
Le calvaire des automobilistes de Lubumbashi continue. Ils passent des stations-service en stations-service, espérant trouver le carburant, mais en vain. La plupart sont fermés, et les revendeurs, communément appelés Kadhafi, s'adonnent à de la pure spéculation. À certains endroits, le litre d'essence se vend jusqu'à 5 000 voire 6 000 francs congolais, au lieu de 3 490 francs congolais. Cette situation intervient après un préavis de grève de 48 heures adressé au ministre de l'économie par les pétroliers. Ce dernier indique qu'il croupit sous les poids énormes des pertes et manques à gagner, non remboursés depuis plus d'une année par le gouvernement et de la non-publication de la nouvelle structure des prix. Ils soulignent qu'ils ne savent plus faire autrement en raison de la montée de prix des produits pétroliers sur le marché international. Ils déplorent aussi la non-tenue des engagements pris par le gouvernement lors de la réunion du 30 septembre dernier au gouvernorat des provinces à Lubumbashi, à savoir le paiement partiel le mercredi 4 octobre et le dimanche 15 octobre au plus tard de ce manque à gagner, une situation qui ne fait qu'exacerber l'asphyxie financière qu'ils connaissent. Ils ne savent pas non plus renouveler leur stock car ils ont perdu la confiance de leurs fournisseurs à cause du non-respect des engagements pris avec eux. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Et puis, six gouverneurs de la RDC ayant en commun les tourbières ont pris l'engagement hier samedi de préserver et valoriser cet écosystème. Ils ont levé cette option dans une déclaration commune faite devant les partenaires techniques et financiers à Kinshasa. Ces gouverneurs de l'Équateur, de la Tchopo, de la Tchouapa, de Maïndombe, de la Mongala et du Sud Ubangi s'accordent que les tourbières constituent une des biodiversités uniques dans la régulation du climat à travers le stockage de carbone. Ce reportage est signé Blaise Dongala Mayanda.
Dans leurs documents, le gouverneur de ces six provinces se sont engagés à mettre en place un cadre de concertation multisectorielle et multidimensionnelle pour assurer la gestion durable des tourbières. Ils ont pris la décision d'assurer une gestion rigoureuse en veillant à ce que ces espaces ne soient ni drainés, de peur qu'ils ne constituent une bombe en matière des émissions de gaz à effet de serre. À travers cette déclaration, ces gouverneurs visent également à améliorer le bien-être des populations locales en activant les opportunités offertes dans les cadres des économies vertes. Le gouverneur de l'Équateur est persuadé que ces projets ne pourra aboutir sans l'accompagnement des partenaires. Bobo Boloko.
Nous invitons les partenaires techniques et financiers à nous accompagner dans la matérialisation de ces engagements.
Le directeur du Fonds mondial pour la nature a salué la détermination des gouverneurs de ces provinces dans la préservation des tourbières qui, selon lui, jouent un rôle sans précédent dans la régulation du climat. Pour sa part, le représentant de la ministre de l'Environnement a rapporté que la RDC regorge des tourbières ayant la capacité de séquestration de plus de 30 milliards de tonnes de carbone, ce qui fait de la RDC le pays solution dans la régulation du climat à travers la planète.
Sans une loi semencière, la RDC ne pourra jamais être compétitive sur le plan international car faisant partie des organisations sous-régionales et régionales regroupant des pays avec leurs lois semencières respectives. Résultat de l'analyse des experts nationaux et étrangers en agriculture lors de l'atelier des hauts niveaux sur un système semencier efficace et mis à l'échelle des technologies pour la transformation de l'agriculture congolaise. De cette analyse, une série de recommandations sont formulées, notamment faire porter la loi semencière aux députés de la commission en charge de l'agriculture et rencontrer les deux bureaux des chambres du Parlement pour que cette loi sur leur table soit adoptée et promulguée. Signalons que cette loi semencière a pour but de réglementer la production de semences afin d'en utiliser celles de bonne qualité, certifiées et répondant aux normes internationales pour un accroissement de la production agricole de la RDC, susceptible de nourrir non seulement les Congolais, mais aussi et surtout l'Afrique. Au Congo central, le conseil urbain de la jeunesse, ville de Matadi, a un nouveau président. Il s'agit de Tito Bungwalanga Mazo. Il a été élu avec 33 voix sur 38 jeunes, membres des différentes corporations de la jeunesse de Matadi, reconnus au niveau du conseil provincial et national de la jeunesse. Ce vote a eu lieu à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire élective de cette structure. Dans son mot de circonstance, Tito Bungwalanga Mazo a promis de fédérer les énergies des jeunes de Matadi en vue d'apporter des réponses aux maux qui rongent cette jeunesse.
Actualité internationale.
À Madagascar, le collectif des 11 a réuni près de 50 000 partisans à Antananarivo hier samedi 21 octobre. Ce rassemblement a eu lieu alors que les candidats à la présidentielle issus de l'opposition dénoncent des manœuvres faites pour les empêcher de rassembler leurs partisans. Au Maroc, la police a saisi plus de 1,3 tonnes de cocaïne à Casablanca, une saisie record effectuée grâce à une alerte donnée par des propriétaires d'unités de distribution de poissons qui ont découvert des paquets suspects dans leur cargaison. La drogue était dissimulée dans des palettes de poissons congelés.
L'invité.
À l'occasion de la célébration le 20 octobre de la journée de la paix, nous recevons M. Amissi Tété Joseph. Il est président national de la Société Civile Alternative. Il plaide pour l'organisation du dialogue social, pour la cohésion sociale, la stabilisation du processus démocratique et républicain. Amissi Tété Joseph s'entretient à Kindu avec Florence Kizalunga.
Monsieur Amissi Tété Joseph, bonjour.
Bonjour madame.
Pourquoi plaider pour l'organisation du dialogue social, pour la cohésion, la stabilisation du processus démocratique et républicain, la paix, la sécurité et la coopération, ainsi que la réconciliation nationale en République démocratique du Congo? Qu'est-ce que vous avez constaté pour demander ces dialogues?
Nous avons constaté, madame, que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets dans un même système politique. Lequel système politique nous avons hérité de la colonisation et a montré ses limites partout au monde. Il faut absolument changer. Il faut absolument changer. Et nous demandons qu'il y ait ce dialogue qui se fixe comme but la rupture. Il faut une nouvelle constitution conçue telle que le pouvoir, parce qu'il y a le principe de Montesquieu qui dit que le pouvoir arrête le pouvoir, autant l'État est doté d'une personnalité publique, autant le peuple doit être doté d'une personnalité publique. Donc, deux institutions. Le pouvoir, le souverain primaire, cesse d'être virtuel. Un peuple virtuel, il est doté d'une personnalité publique avec des institutions. Ainsi, le pouvoir arrêtera le pouvoir.
C'est-à-dire pour vous, les élections n'ont rien à faire pour changer la donne dans notre pays?
Non, les élections ne sont pas une fin en soi, madame. En 2006, en 2011... Il y a eu deux cycles électoraux. Et pourtant, nous avons vécu en 2012, le M23 a occupé Goma. Ce qui a incité la MONUSCO, la communauté internationale, d'organiser cette conférence d'Addis Abeba, au terme de laquelle est sorti l'accord cadre d'Addis Abeba du 24 février 2013. Et dans cet accord cadre, il y a une recommandation la plus importante. On n'en parle pas, madame. Le gouvernement s'est engagé à promouvoir la restructuration, la réforme structurelle des institutions de l'État et celle des finances. C'est comme ça que c'est écrit dans l'accord cadre d'Addis Abeba. Mais depuis lors, on ne l'a pas fait. Donc les élections ne sont pas une fin en soi. D'ailleurs, vous voyez comment maintenant le pays est devenu vulnérable parce que les échéances électorales approchent. Nous préconisons dans ce pacte social un autre système d'élection.
Dans ce dialogue, de quoi est-ce qu'il sera question? C'est seulement la rupture?
Oui, cette rupture, eh bien, nous proposons une proposition de loi d'initiative populaire que nous avons appelé ça dans mon livre « Pacte social ». Eh bien, c'est ce pacte social qui sera intégré dans la nouvelle constitution de la République révisée.
Maintenant, ça se fera quand et comment pendant que vous dites que les élections n'ont rien à voir pour changer, alors que ce sont ceux qui seront élus qui auront le pouvoir de proposer cette nouvelle loi que vous cherchez.
Que ce dialogue social s'organise avant les élections ou après les élections, l'essentiel est que cette fois-ci, ça soit la bonne. Je vous avais dit, madame, 2006-2011, il y a eu des cycles électoraux qui n'ont apporté rien. Il faut absolument un autre système politique. Celui qui nous avons été de la colonisation a montré ses limites partout. La démocratie parlementaire, elle a échoué. Nous proposons la démocratie communautaire.
Monsieur Tété, ça veut dire que tout ce qui est les gouvernements, les efforts du gouvernement chez vous, ça ne vous dit rien?
Ce sont des efforts nuls parce qu'ils tomberont toujours dans l'eau. Pourquoi? Parce que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets dans un même système politique. Que nous avons hérité de la colonisation, nous devons trouver autre chose. Et nous l'avons trouvé dans notre livre et nous le proposons.
Et dans ces dialogues qui vont y participer, comment est-ce que vous allez faire pour y arriver à organiser?
Oui, nous avons les composantes. Il y a le gouvernement, il y a la société civile dans sa diversité, les partis politiques, les tout partenaires. Par exemple aussi, la communauté
communauté internationale peut y participer à travers le mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Voilà, ils sont les scientifiques, les chercheurs, tous seront conviés.
Et
les coutumiers aussi.
Et ça sera où là?
Bien, nous le voulons, nous, c'est un rêve pour nous. Nous souhaitons que le gouvernement, les responsables, soient suffisamment sensibilisés et prennent conscience de la chose et l'organisent. C'est vrai que nous écoutons par-ci, par-là, à gauche, à droite, il n'y aura pas élection, et c'est un dialogue. Eh bien, nos idées seront les bienvenues.
Messieurs, Amissi Tété Joseph, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, madame.
C'était notre invité, le président national de la société civile alternative, Amissi Tété Joseph, s'entretenait à Kindu avec Florence Kizalunga. Fin de cette édition du journal qui a été coordonnée par Alain Irung et supervisée par Jacques-Yves Molima. La mise en onde a été assurée par Jean-Claude Nsiala. À vous, je dis infiniment merci de l'avoir écouté.